11. Quand Tower fut parti, Eddie se leva du tabouret et se rendit à la porte qu'il était le seul à voir. Il regarda à l'intérieur. Il entendait faiblement le carillon et, plus distinctement, sa mère.
« Pourquoi tu ne sors pas de là ?»
gémissait-elle.
« Tu vas faire qu'aggraver les choses, Eddie, comme toujours. »
« C'est bien, Mama, » se dit-il, et il appela le pistolero par son nom. Roland retira une des balles de ses oreilles. Eddie remarqua la légère maladresse avec laquelle il la manipulait, comme s'il donnait un coup de patte, comme s'il avait les doigts engourdis. Mais ce n'était pas l'heure de penser à ce genre de choses. « Ça va ?» cria Eddie. « Très bien. Et toi ?»«
Ouais, mais... Roland, est-ce que tu peux venir ? Je vais peut-être avoir besoin d'un peu d'aide. »
Roland sembla réfléchir, puis secoua la tête. « Si je viens, la boîte risque de se refermer. C'est même presque certain. Et alors, c'est la porte qui se fermerait. Et on serait piégé de ce côté. »
« Tu peux pas bloquer cette foutue boîte avec une pierre ou un os ou quelque chose ?»«
Non, » dit Roland, « ça ne marcherait pas, cette boule est puissante. »« Et elle agit sur toi, » pensa Eddie. Roland avait l'air hagard, comme lorsque le venin des monstruosités envahissait son corps. « D'accord, » fit-il. « Fais aussi vite que tu pourras. »« Promis. »
12. Quand il se retourna, Tower le regardait d'un air interrogateur.
« À qui parliez-vous ? »
Eddie fit un pas de côté et pointa le doigt vers la porte.
« Est-ce que vous voyez quelque chose, là, Sai ? »
Calvin Tower jeta un œil, secoua la tête, puis regarda plus attentivement.
« Une sorte de miroitement ?» comme de l'air au-dessus d'une source de chaleur. « Qui est là ? Qu'est-ce qu'il y a là ?»«
Pour l'instant, disons, personne. Qu'est-ce que vous tenez, là ?»
Tower leva la main. C'était une enveloppe très ancienne. D'une belle écriture ronde, il était écrit dessus « Stephen Thorne ». Et... lettre morte. En dessous, dessiné avec beaucoup de soin à l'encre, Eddie reconnut les symboles gravés sur la porte et sur la boîte. Là, on tient peut-être quelque chose, se dit-il.
Autrefois, cette enveloppe contenait le testament de mon arrière-arrière-arrière-grand-père, expliqua Calvin Tower. Il datait du 19 mars 1846. Désormais, il n'y a plus qu'un petit morceau de papier avec un nom inscrit dessus. Si vous pouvez me dire quel est ce nom, jeune homme, je ferai ce que vous demandez.
On en revient toujours aux devinettes, pensa Eddie. Seulement cette fois-ci, ce n'était pas seulement quatre vies qui dépendaient de la réponse, mais l'essence même de toute existence. « Dieu merci, celle-là est facile. »«
Descaine, » répondit-il. « Le prénom sera ou bien Roland, c'est le nom de Mondine, ou bien Stephen, le nom de son père. »
Il sembla à Eddie que tout le sang était aspiré du visage de Calvin Tower. Il se demanda comment l'homme réussit à rester debout.
« Dieu du ciel !»
Les doigts tremblants, il extirpa un vieux morceau de papier friable de l'enveloppe qui avait voyagé dans le temps et traversé plus de 131 ans pour arriver jusqu'à ce « où » et ce « quand ». Il était plié. Tower l'ouvrit et le posa sur le comptoir, où ils purent tous deux lire les mots écrits par Stephen Thorne, de cette même écriture ronde et ferme. « Roland de Skane de Gilead » La lignée d'Eld Pistolero. 13. Ils parlèrent encore un bon quart d'heure, et Eddie estima qu'ils se dirent des choses importantes, mais le véritable marché s'était conclu dès lors qu'Eddie avait prononcé le nom que le trisaïeul de Tower avait écrit sur un morceau de papier 14 ans avant le début de la guerre de sécession. Ce qu'Eddie avait découvert de Tower pendant leur palabre était assez déroutant. Il éprouvait un certain respect pour cet homme, pour tout homme capable de tenir tête plus de 20 secondes aux hommes de main de Balassal. Mais il ne l'aimait pas beaucoup. Il voyait en lui un mélange de bêtise et d'obstination. Eddie pensait qu'il l'avait développé lui-même avec l'aide de son analyste, qui devait lui expliquer comment s'occuper de lui-même, être le capitaine de son propre vaisseau, l'auteur de son destin, dans le respect de ses désirs et tout le blablabla habituel. Tous les petits termes codés qui essayaient de faire croire que c'était très bien d'être un salopard d'égoïste, que c'était même noble. Quand Tower raconta à Eddie qu'Aaron Dipnow était son seul ami, le jeune homme n'en fut pas surpris. Ce qui le surprenait, c'est que Tower est un ami. Un homme tel que lui ne pourrait jamais être qu'à tête. Et Eddie se sentit mal à l'aise en mesurant combien leur destin était pourtant intimement lié.
« Il va falloir que tu t'en remettes au cas. C'est à ça que ça sert le cas, non ?»«
Bien sûr. » Mais Eddie n'était pas forcé d'applaudir des deux mains.
14. Eddie demanda à Tower s'il possédait une bague avec l'inscription « Ex Liveris ». Tower eut l'air troublé, puis il rit et il dit à Eddie qu'il devait vouloir dire « Ex Liveris ». Il alla fouiller sur l'une de ses étagères, y trouva un livre et lui montra la planche en couverture. Eddie hocha la tête.
« Non, » répondit Tower. « Mais ce serait parfait pour un type comme moi, n'est-ce pas ? Pourquoi me posez-vous cette question ? » demanda-t-il en observant attentivement Eddie.
Mais la responsabilité que Tower prendrait en sauvant la vie d'un homme qui pour l'instant explorait les autoroutes occultes de l'Amérique multiple était un sujet sur lequel Eddie n'avait pas envie de se pencher, pour l'instant. Il en avait mis plein la vue à ce type et était presque arrivé à ses fins, et il lui fallait encore repasser la porte dérobée dans l'autre sens avant que la 13e noire ne réduise Roland en un tas de cendres.
« Aucune importance. Mais si vous en voyez une, je vous conseille de la ramasser. Encore une chose avant que je m'en aille. Oui ? Je veux que vous me promettiez que dès que je serai parti, vous partirez vous aussi. »
Tower se montra de nouveau fuyant. C'était cet aspect de sa personnalité dont Eddie savait qu'il en viendrait à le détester avec le temps.
« Eh bien... pour tout vous dire, je ne sais pas si je vais pouvoir. Le début de soirée est souvent très bon pour les affaires. Les gens viennent beaucoup plus quand la journée de travail est finie. Et M. Brice doit venir jeter un œil à cette première édition d'Onde Trouble, le roman d'Erin Shaw sur la radio et l'air McCarthy. Il faudra au moins que je jette un œil à mon carnet de rendez-vous. » Et il poursuivit son petit discours, faisant monter la pression à mesure qu'il énumérait les futilités.
Eddie l'interrompit d'une voix très douce. « Vous tenez à vos boules, Calvin ? Êtes-vous aussi attaché à elles qu'elles le sont à vous ?»
Tower, qui était en train de se demander qui nourrirait Sergio s'il pliait bagages comme ça, se tut et regarda Eddie d'un air décontenancé, comme s'il n'avait jamais entendu ce simple mot auparavant. Eddie hocha la tête avec obligeance.
« Vos roubignoles, vos coucougnettes, vos cojones, la vieille usine à sperme, vos testicules. »
Je ne vois pas ce que Eddie avait fini son café. Il se renversa une lampée de moitié-moitié et le but. Il avait un très bon goût. « Je vous ai dit que si vous restiez ici, vous pouviez vous attendre à vous retrouver sérieusement mutilé. Voilà ce que je veux dire. Et ils commenceront sans doute par là, par vos couilles, pour vous donner une leçon. Quant à savoir quand, eh bien, ça dépendra de la circulation. »
« De la circulation ?» répéta Tower d'une voix absolument inexpressive.
«
exact, dit Eddy en sirotant son breuvage comme s'il s'agissait d'un dé à coudre de cognac. Ça dépendra en gros du temps qu'il faudra à Jake pour retourner à Brooklyn, puis du temps que mettra Balassar à vous renvoyer une vieille fourgonnette bourrée du type. J'espère juste que Jake était trop sonné pour penser à téléphoner. Vous pensez que Balassar allait attendre demain? Qu'il allait d'abord organiser une petite discussion avec deux, trois gars comme Kevin Blake ou Jimmy Dretto? Eddy dressa un doigt, puis deux. Il avait sous les ongles la poussière d'un autre monde. Premièrement, ils n'ont pas de cervelle. Deuxièmement, Balassar ne leur fait pas confiance. Ce qu'il va faire, Cal, c'est ce que ferait tout despote qui se respecte. Il va réagir sur le champ, rapide comme éclair. La circulation de l'heure de pointe va les retenir un petit peu, mais si vous êtes toujours ici à 6 heures, l'admi au plus tard, vous pouvez dire adieu à vos bijoux de famille. Ils vont vous les découper au couteau, puis cautériser la plaie avec une de ces petites torches. « Arrêtez !» fit Tower. Son visage était passé du blanc au vert, d'un joli vert très saillant. « Je vais aller à l'hôtel. » Dans le village, il y en a un ou deux abordables qui hébergent des artistes et des écrivains dans le creux de la vague. Les chambres sont moches, mais c'est pas si mal. J'appellerai Aaron et on partira demain matin vers le nord.
Bien, mais vous commencez par choisir une destination, recommanda Eddy. Parce que moi ou l'un de mes amis, nous aurons peut-être besoin de vous contacter.
« Et comment je suis censé faire? Je ne connais aucune ville de Nouvelle-Angleterre au nord de Westport, dans le Connecticut. »
« Passez quelques coups de fil une fois que vous arriverez à l'hôtel dans le village. Vous choisissez une ville, et puis demain matin, avant de quitter New York, vous envoyez votre pote Aaron jusqu'à votre terrain vague. Dites-lui d'écrire le code postal sur la palissade. »
Une idée désagréable traversa l'esprit d'Eddy. « Vous avez bien des codes postaux. Je veux dire, ils ont déjà été inventés. »
Tower le considéra comme s'il était fou.
« Bien sûr que oui. »«
Super. Dites-lui de l'écrire du côté de la 46e rue, tout au bout de la palissade. Vous avez bien compris. »«
Oui, mais ils ne vont sûrement pas mettre votre magasin sous surveillance avant demain matin. »« Ils se diront que vous avez été malin, que vous avez décampé. »
Mais dans le cas contraire, s'il place le magasin sous surveillance, ce sera côté 2e avenue. Et s'il surveille aussi l'autre côté, c'est vous qu'ils attendront, pas lui.
Tawa eut un petit sourire malgré lui. Eddy se détendit et sourit à son tour.
Mais... Et s'ils attendent aussi Aaron?
Faites-lui porter le genre de vêtements qu'il n'a pas l'habitude de mettre. Si c'est un homme à mettre des jeans, qu'il mette un costume. Et s'il porte des costumes, je lui ferai mettre un jeans.
Exact.
Et des lunettes de soleil, ce ne serait pas une mauvaise idée, à condition qu'il fasse assez beau pour que ça ne paraisse pas bizarre. Et puis qu'il utilise un feutre noir. Dites-lui que ça n'a pas besoin d'être artistique, il passe juste le long de la palissade comme s'il lisait une des affiches. Puis il écrit les chiffres et il s'en va. Et dites-lui bien de... ne pas merder au nom du ciel.
Et comment allez-vous nous trouver une fois que vous arriverez à la ville du fameux code postal?
Eddy repensa à Took et à leur palabre avec les Falcon quand ils étaient assis sous le porche, laissant ceux qui le souhaitaient jeter un coup d'œil ou poser une question.
Rendez-vous à l'épicerie du coin. Faites un brin de Cosette. Dites à qui voudra l'entendre que vous êtes là pour écrire un livre ou pour peindre les casiers à homard. Je vous trouverai.
Très bien, dit Tower. C'est un bon plan. Vous êtes un bon homme. Je suis surtout fait pour ça, pensa Eddy, mais il n'en dit rien.
Il faut que j'y aille, je suis déjà resté trop longtemps.
J'ai besoin de votre aide avant que vous partiez, dit Tower avant d'expliquer ce qu'il voulait.
Eddy ouvrit des yeux ronds.
Quand Tower eut fini, il n'en eut pas pour longtemps. Eddy explosa.
« Ouah ! Vous déconnez !»
Tower noir fut un mouvement de la tête en direction du sol, là où distinguait le miroitement. Les piétons qui passaient derrière avaient l'air de mirages évanescents.
« Il y a une porte là, vous l'avez dit vous-même, et je vous crois, je ne la vois pas, mais je vois quelque chose. »« Vous êtes malade ?» fit Eddie, « complètement déjanté !»
Il ne le pensait pas vraiment, pas exactement, mais plus que jamais il répugnait à voir son destin lié d'aussi près à celui d'un homme capable d'une telle requête, d'une telle exigence.
« Peut-être ou peut-être pas, » dit Tower en pliant les bras en travers de sa poitrine large mais flasque. Il parlait d'une voix douce, mais son regard était inflexible. « Quoi qu'il en soit, c'est ma condition pour faire tout ce que vous demandez, pour basculer dans votre folie, autrement dit. »
« Allons, calme, bon sang, au nom de Dieu et de l'homme Jésus, je vous demande juste de respecter les dernières volontés de Stephen Torren. »
Le regard de Tower ne s'adoucit pas et ne se fit pas fuyant, comme quand il parlait pour ne rien dire ou qu'il s'apprêtait à raconter des bobards. Il se fit même plus dur, s'il était possible.
« Stephen Torren est mort, mais moi je suis vivant. Je vous ai donné ma condition. La seule question, c'est de savoir si vous... Ouais !»
s'écria Eddie en liquidant le reste du liquide blanc dans sa tasse. Puis il ramassa le brick de lait et le vida aussi pour faire bonne mesure. Visiblement, il allait avoir besoin de force.
« Allez, allons-y !»
15. Roland voyait ce qui se passait dans la librairie. Mais c'était comme regarder au fond d'un ruisseau rapide. Il aurait voulu qu'Eddie se dépêche. Même avec les balles profondément enfoncées dans les oreilles, il entendait le carillon du Vahadash et rien ne venait arrêter les odeurs de métal bouillant, puis de bacon rance ou encore de vieux fromage fondu ou d'oignons qui brûlent. Il avait les yeux qui pleuraient, ce qui expliquait sans doute en partie l'aspect vacillant du décor de l'autre côté de la porte. Mais bien pire que le son du carillon ou que les odeurs, ce qui le gênait le plus, c'était la façon dont la boule s'insinuait dans ses articulations déjà affaiblies, les comblant avec ce qui paraissait des éclats de verre brisé. Jusqu'ici, il n'avait ressenti que quelques élancements dans sa main gauche intacte, mais il ne se faisait pas d'illusions. Ici et ailleurs, la douleur continuerait de croître tant que la boîte resterait ouverte et que la 13e noire brillerait sans écran. Une partie de la douleur de l'arthrite disparaîtrait peut-être une fois que la boule serait de nouveau enfermée, mais pas tout, craignait Roland, et ce n'était sans doute qu'un début. Comme pour le féliciter de son intuition, un accès sinistre de douleur s'installa dans sa hanche droite et se mit à lanciner. Roland avait l'impression qu'il s'agissait d'un sac de plomb liquide et bouillant. Il commença à se masser avec la main droite, comme si ça pouvait le soulager.
« Roland !»
La voix était lointaine et bouillonnante, comme la vision au-delà de la porte. Elle semblait venir de sous l'eau, mais c'était sans nul doute celle d'Eddie. Roland leva les yeux de sa hanche et vit qu'Eddie et Tower avaient transporté une sorte de coffre à travers la porte dérobée. Il était visiblement rempli de livres.
« Roland, tu peux nous aider ?»
La douleur s'était ancrée si profondément dans sa hanche et dans ses genoux que Roland n'était même pas sûr de pouvoir se lever. Mais il y parvint, et avec une certaine fluidité. Il ne savait pas ce que les yeux perçants d'Eddie avaient déjà saisi de sa condition, mais il ne souhaitait pas qu'ils en voient plus. Du moins, pas avant que leurs aventures à Calabrin Sturgis aient pris fin.
« Nous, on pousse, toi tu tires !»
Roland hocha la tête pour signifier qu'il avait compris, et le coffre glissa vers lui. Il y eut un instant étrange et vertigineux, durant lequel la moitié du coffre était clairement apparue du côté de la grotte et où l'autre moitié miroitait et vacillait du côté de la librairie spirituelle de Manhattan. Puis, Roland s'en empara et le tira vers lui. Le coffre trépida et crissa sur le sol de la grotte, écartant sur son passage de petits tas de cailloux et d'eau. Dès qu'il eut passé la porte, le couvercle de la boîte commença à se refermer. La porte fit de même.
« Oh non !» murmura Roland. « Oh non, espèce de saloperie !»
Il glissa les deux doigts qui lui restaient à la main droite dans l'espace décroissant entre le couvercle et le corps de la boîte. La porte s'immobilisa et resta entrebâillée. Mais trop, c'était trop. À présent, il avait même les dents qui bourdonnaient. Eddie échangeait encore une dernière petite palabre avec Tower, mais Roland s'en fichait même s'il s'agissait des secrets de l'univers.
« Eddie !» rugit-il. « Eddie, à moi !»
Et Dieu merci, Eddie attrapa son sac à malice et partit. Sitôt qu'il eut passé la porte, Roland referma la boîte. La porte dérobée claqua une seconde après avec un bruit sec et peu spectaculaire. Le carillon s'évanouit, de même que le flot de poison qui coulait dans les articulations de Roland. Le soulagement fut si extraordinaire qu'il poussa un cri. Puis, pendant les 10 secondes qui suivirent, tout ce qu'il parvint à faire, c'est à poser son menton contre sa poitrine, fermer les yeux et lutter pour ne pas sangloter.
« Grand merci, » finit-il par articuler. « Eddie, grand merci. »
« De rien. Si on sortait de cette grotte, qu'est-ce que t'en dis ?»«
J'en dis oui, » répondit Roland. « Mon Dieu, oui !»
16. « Il ne t'a pas beaucoup plu, je me trompe ?» demanda Roland. Il s'était passé 10 minutes depuis le retour d'Eddie. Il s'était légèrement éloigné de la grotte pour s'arrêter à l'endroit où le sentier serpentait à travers une petite anse rocheuse. Les bourrasques de vent rugissantes qui soulevaient leurs cheveux et leur planquaient les vêtements contre la peau étaient ici réduites à de petites rafales ridicules. Roland en fut reconnaissant. Il espérait qu'elle serait le prétexte pour justifier la maladresse avec laquelle il roulait sa cigarette. Pourtant, il sentit les yeux d'Eddie posés sur lui, et le jeune homme de Brooklyn, qui avait été autrefois presque aussi borné et inconscient qu'Andolini et Biondi, en voyait maintenant beaucoup.
« Tower, tu veux dire ?»
Roland lui adressa un regard sardonique.
« De qui crois-tu que je parle ?» « Du chat ?»
Eddie poussa un bref grognement, presque un rire. Il continuait de respirer de longues bouffées d'air pur. C'était bon d'être revenu. Se rendre à New York en chair et en os était mieux que d'y aller va-à-dash, en un sens, notamment pour cette obscurité insidieuse qui avait disparu, ainsi que cette impression permanente de fragilité. Mais mon Dieu, ce que ça puait ! C'était surtout les voitures et les gaz d'échappement. Les nuages huileux de diesel, voilà ce qu'il y avait de pire. Mais il fallait aussi supporter un millier d'autres mauvaises odeurs. L'une d'entre elles, et pas la moindre, était l'arôme de tous ces corps humains, cette odeur de putois que ne camouflaient pas du tout les parfums et les déodorants dont s'aspergeaient les Falken. N'avait-il aucune conscience de sentir aussi mauvais et entassés comme ils étaient ?
Eddie se dit que non, sans doute.
Comme lui, il n'en avait pas eu conscience non plus autrefois. Il était un jour passé où il trépignait d'impatience de pouvoir retourner à New York, où il aurait tué pour se retrouver là-bas.
« Eddie, reviens de Nice !»
Roland fit claquer ses doigts devant le visage d'Eddie.
« Pardon, dit ce dernier, pour ce qui est de Tawa. Non, je ne l'aime pas beaucoup. Mon Dieu, envoyer ses livres comme ça... Ce chantage avec ses premières éditions, quand l'enjeu, c'est de sauver ce putain d'univers.
Il ne pense pas dans ces termes-là, à moins que si, dans ses rêves. Et tu sais qu'ils vont mettre le feu à sa boutique quand ils arriveront et qu'ils découvriront qu'il est parti. C'est presque certain. Ils vont verser de l'essence sous la porte et allumer le tout, casser sa vitrine et balancer une grenade à l'intérieur, industrielle ou faite maison. Tu vas pas me dire que ça t'a préfleuré l'esprit.
Bien sûr que si.
Peut-être bien, oui.
Ce fut le tour de Roland d'émettre un grognement amusé.
Plutôt oui que peut-être. Alors il a sauvé ses plus beaux livres.
Et maintenant, dans la grotte de la porte, nous avons de quoi cacher le trésor du père, même si on devrait pouvoir dire « notre trésor maintenant ».
Son courage ne m'a pas paru du véritable courage, plutôt de l'avidité.
Tout le monde n'est pas appelé à la voix de l'épée, du fusil ou du vaisseau, dit Roland. Mais tous servent le cas.
Vraiment? Le roi Cramoisi aussi? Ou les ignobles dont parlait Callahan?
Roland ne répondit pas.
Il s'en tirera peut-être bien, Tower, je veux dire, pas le chat.
Très amusant, commenta sèchement Roland. Il gratta une allumette sur l'arrière de son pantalon, protégea la flamme de sa main et alluma sa cigarette.
Merci, Roland. Tu fais des progrès en la matière. Demande-moi si je crois que Tower et Dipno peuvent sortir de New York sans embrouille.
Tu le crois?
Non, je pense qu'ils laisseront une piste. Nous, on pourrait la suivre. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas des hommes de Balassar.
Ce qui me tracasse, c'est Jack Andolini. Il est affreusement malin quant à Balassar. Il a conclu un marché avec la Sombra Corporation. Il s'est pris pour le King.
Ouais, j'imagine, acquiesça Eddie.
Balassar sait bien que quand on conclut un marché, il faut le respecter, ou bien avoir une sacrée bonne raison de ne pas le faire.
Si on n'est pas à la hauteur, ça finit par se savoir. Il y a des bruits qui circulent sur un tel qui se ramollit, qui a perdu la niaque. Il leur reste encore 3 semaines pour retrouver Tower et le forcer à vendre son terrain à la Sombra. Ils vont s'en servir.
Balassar n'est pas du FBI, mais il a son réseau et... Roland, le pire avec Tower, c'est que, en un sens, tout ça n'est pas réel pour lui. C'est comme s'il avait confondu sa vie avec celle d'un personnage dans ses livres. Il est persuadé que tout va forcément bien se finir, tout ça parce que l'auteur a signé un contrat.
Tu penses qu'il va se montrer négligent ?
Eddie eut un rire un peu fou.
Oh, pour ça, je sais qu'il va se montrer négligent.
La question, c'est de savoir si ça permettra à Balassar de l'attraper ou pas.
Il va falloir que tu surveilles ce monsieur Tower pour notre sécurité à tous.
C'est ce que tu dis, n'est-ce pas?
Mon salaud! S'exclama Eddie, et après quelques secondes de réflexion en silence, ils éclatèrent de rire en chœur.
Je pense qu'il faudra envoyer Callahan s'il veut bien, suggéra Eddie après que la crise fut passée.
Tu vas probablement me prendre pour un fou, mais pas du tout, dit Roland. Il est l'un des nôtres, ou il pourrait l'être. Je l'ai senti dès le début, et il a l'habitude de voyager dans des lieux étranges. Je lui en parlerai aujourd'hui. Demain, nous reviendrons ici, et on le fera passer par la porte.
Laisse-moi m'en charger, proposa Eddie. Une fois, ça suffit pour toi. Au moins pour un temps.
Roland le considéra avec attention, puis d'une pichenette envoya sa cigarette dans le précipice.
Pourquoi dis-tu ça, Eddie?
Tu as les cheveux plus blancs ici, dit Eddie en se touchant le haut du crâne. Et puis aussi, je te trouve un peu raide quand tu marches.
Ça va mieux maintenant, mais j'imagine que tes vieux rhumatismes t'en font baver un peu. Allez, à vous.
D'accord, j'avoue. Si Eddie pensait que ce n'était rien de plus qu'une petite visite de ce vieux monsieur rhumatis, ce n'était pas si mal.
En fait, je pourrais même l'amener ici ce soir, juste le temps d'obtenir le code postal, suggéra Eddie. Il fera de nouveaux jours là-bas, je parie.
Aucun de nous n'empruntera ce chemin dans le noir, pas si on peut faire autrement.
Eddie suivit du regard la pente abrupte jusqu'à l'endroit où les rochers éboulés saillaient, formant un passage au-dessus du vide sur environ 5 mètres.
« Je vois ce que tu veux dire. »
Roland se releva. Eddie se pencha et lui prit le bras.
« Reste encore une minute, Roland, veux-tu ?»
Roland se rassit sans quitter Eddie des yeux. Eddie respira à fond.
Ben Slightman n'est pas net, lâcha-t-il. C'est lui à la balance.
Oui, je sais. Eddie jeta à Roland un regard ébahi.
Tu le sais ?
Comment tu as pu ? Disons que j'avais des soupçons.
Comment ?
À cause de ses lunettes. Ben Slightman, l'aîné, est la seule personne à Calabrine Sturgis à emporter.
Allons, il dit. Le jour attend. On peut parler en avançant.
17. Mais ce ne fut pas possible, du moins au début, car le sentier était trop étroit et trop à pic. Mais plus tard, alors qu'ils approchaient du fond de la Mesa, il s'élargit et devint moins dangereux. Une fois encore, ils en vinrent rapidement aux questions pratiques et Eddie raconta à Roland l'histoire du livre, le Dogan ou le Hogan, et du nom équivoque de l'auteur. Il lui décrivit l'ambiguïté de la page de droit, sans être bien sûr que Roland en comprenait le sens. Eddie qu'il s'était alors demandé si le fils n'était pas impliqué lui aussi.
Ça paraissait fou, mais je pense que...
Si Benny Slightman aidait son père à divulguer des informations sur nous, Jake serait au courant.
« Es-tu sûr qu'il ne l'est pas ?» demanda Eddie.
Roland marqua un temps d'arrêt, puis il secoua la tête.
« Jake soupçonne le père. »«
Il te l'a dit ?»«
Il n'a pas eu à le faire. »
Ils avaient presque rejoint les chevaux qui levèrent leur regard alerte et parurent contents de les voir.
« Il est là-bas, au Rocking Bee, » dit Eddie. « Peut-être qu'il faudrait qu'on aille y faire un tour, qu'on invente un prétexte pour le ramener chez le père. »
Il laissa sa phrase en suspens, dévisageant Roland.
« Non ?»«
Non. »«
Pourquoi ?»«
Parce que c'est le boulot de Jake. »«
C'est dur, Roland. »«
Lui et Benny Slightman s'aiment bien. » Ils s'aiment même beaucoup. Si c'est Jake qui doit être celui qui révélera à toute la Cala les agissements de son père, Jake fera ce qu'il a à faire, dit Roland, comme nous tous.
Mais ce n'est qu'un petit garçon, Roland, tu ne le vois donc pas.
Il ne le sera plus très longtemps, répondit Roland en montant en selle. Il espéra qu'Eddie n'avait pas vu la grimace de douleur fugitive qui lui tordit le visage lorsqu'il balança la jambe droite par-dessus la selle. Mais Eddie la vit, bien sûr.